Salut les auditeurs et auditrices, ça fait bientôt un an que les podcasts Réponse de mec et Réponse de meuf ont été adaptés en spectacle. Un spectacle interactif qui se joue tous les samedis à 18h à la Divine Comédie, c'est un théâtre à Paris. Ce spectacle, c'est l'occasion de prolonger les débats, d'étendre les discussions, d'exposer et d'écouter plein de points de vue sur vos questions et évidemment de se marrer. On finit la saison le 27 avril, ça veut dire qu'il faut que vous preniez vos places pour un des derniers samedis qui restent. Le lien est dans la description et au pire, faut taper Réponse de mec dans Billets Réduc. Profitez-en, hein. Les places sont vraiment pas chères et surtout, c'est les dernières. Après, c'est fini. Allez, je vous laisse avec votre épisode. Bonne écoute et à samedi.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bienvenue dans l'Outline des Gentilhommes. Connie, Dan et Pascal à votre écoute en direct le lundi soir sur Instagram et sur restless.com.
Et ouais, c'est l'Outline des Gentilhommes, c'est dingue. C'est une émission de dingue que vous êtes beaucoup à suivre en replay. Donc tous ceux qui sont en train de nous écouter en replay, merci, big up. N'hésitez pas à venir le lundi soir à 21h en direct sur restless.com et sur Instagram. Ça nous permet de laisser plein de commentaires. N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee. C'est le meilleur moyen de nous soutenir. Ça nous permet de faire plein de choses financières. On va pas rentrer dans les détails, mais juste donner argent en fait. Et
il faut pas parler d'argent, c'est de l'amour.
Faites-nous confiance, ça fait 5 ans qu'on mène cette barque extrêmement bien grâce à vous, les tipeurs, ceux qui sont là, on a plus de 100 tipeurs qui sont là, ils savent ce qui se passe avec le Tipeee. Donc faites leur confiance, il y en a 100 qui sont déjà venus, venez tiper, cherchez même pas à comprendre, lâchez la CB, 1 euro, c'est parti. Et tout de suite, on va discuter avec Morgane. Salut Morgane.
Hello Morgane. Bonsoir.
Salut Morgane.
De quoi tu es venue nous parler ce soir ?
Eh bien ce soir, je suis venue vous parler de la multiplicité des partenaires sexuels.
Ah. Bah voilà. Enfin un sujet intéressant.
Ouais, parce que d'habitude, on s'ennuie un peu quand même. Hein.
C'est-à-dire, c'est quoi la multiplicité des partenaires sexuels ? Ça consiste en quoi ?
C'est quoi cette question ? Tu demandes un nombre ?
Non, juste le procédé. Non, bah, j'imagine la multiplicité, c'est à partir de deux, quoi.
Bah, allez, on va dire ça. C'est le fait de faire des choses avec beaucoup d'hommes. Je pense qu'on peut parler de beaucoup à mon stade. Et du coup, j'ai voulu...
Tu attises notre curiosité, ouais. Du coup. Et beaucoup, ouais, ça veut dire combien?
Ben, en fait, c'est ça le truc. C'est que j'ai envie d'en parler ce soir avec vous parce que généralement, quand on entend une femme commencer à parler d'un nombre assez important de partenaires sexuels, ça va tourner autour d'une vingtaine d'hommes. Et peut-être plus, mais c'est rare que j'ai entendu plus.
En même temps?
Et toi, non, tu trouves... Et du coup...
Ben oui, Morgane, il faut, tu vois, en rendant des chiffres et tout, 20, oui, mais sur quelle durée? Enfin, tu vois, des choses comme ça.
Mais 20, j'ai l'impression que 20 trouve ça ridicule. A priori, elle est à 10 fois plus, hein, si je comprends bien.
Vas-y, on t'écoute, Morgane.
Ce que j'allais dire, c'est que moi, je me retrouve pas dans ce genre de femme parce que à 30 ans, j'ai arrêté de compter, mais j'ai plus d'une centaine de partenaires, en fait.
Ah, donc j'ai bien compris.
Et trop bien, trop bien, franchement.
Ouais, c'est cool.
Bah oui, félicitations déjà.
Moi, je sais pas si on peut me féliciter, mais en attendant, c'est une question de parcours de vie. Et j'ai envie de dédramatiser un peu parce que je sais que je ne suis pas la seule. J'ai des femmes dans mon entourage qui en sont même à plus que moi. Et on n'entend pas trop parler, ou alors si on entend parler des femmes qui multiplient à ce point les partenaires, c'est pas forcément dans des termes soit élogieux, soit assumés complètement. Et du coup, voilà, j'ai envie de parler de ça. Après, voilà, comme je disais, c'est un chemin de vie, c'est-à-dire que j'ai eu des relations qui ont duré 3 ans, j'ai eu des relations qui ont duré quelques heures, ou quelques nuits, quelques mois, quelques semaines. J'ai eu toutes les configurations possibles, je crois, sur le tableau de la vie.
C'est génial.
Et je trouve que c'est... En fait, moi, ça m'a enrichi plus qu'autre chose. Ça m'a donné confiance en moi aussi. Et alors, je suis pas là à prôner le fait de multiplier forcément les partenaires, mais en tout cas, dédramatiser les choses, ça, c'est sûr. Et voilà, c'est pour ça que je suis là ce soir avec vous.
Mais ça s'est fait naturellement, en fait. Il n'y a pas eu, genre, tu te dis, bon, allez, cette fois, je vais battre mon record cette année.
Absolument.
Il n'y a pas ce genre de truc. C'est vraiment naturellement, tu es amené à avoir des relations avec des hommes régulièrement. Et... Alors, c'est
moi,
quoi,
j'ai une question, si je peux me permettre. Cette situation te satisfait? C'est-à-dire, que, est-ce que tu as déjà eu des relations longues? Est-ce que tu veux des relations longues? Comment tu gères le rapport entre
ans,
ce que tu as
ans.
Et ce que
Elle
tu veux.
Elle a dit 3 ans déjà. Eh
ben
3
alors,
ans, c'est hyper long. Hein.
En fait, je vais répondre en même temps à vos deux questions. C'est-à-dire que de mes 16 ans à mes 22 ans, j'ai connu deux relations de 3 ans.
Ouais.
Et donc, j'ai connu le célibat à partir de mes 22 ans réellement. Et c'est là où j'ai découvert que je plaisais aux hommes. Et au début, ça me flattait. Et du coup, je me laissais aller. Et puis petit à petit, en fait, j'ai même inversé la tendance à jouer le jeu de la séduction. Et oui, ça se faisait naturellement. J'ai jamais eu à forcer quoi que ce soit. Et est-ce que ça me convient? J'ai envie de dire que ça a été plusieurs phases. Il y a eu des phases où ça m'a convenu parce que c'était tout ce que je cherchais. Il y a eu des phases où j'ai pas réussi à sortir de ce rôle-là. Savoir que, par exemple, l'homme me plaisait plus que pour des relations sexuelles, et en fait, j'ai pas réussi à sortir du rôle de partenaire sexuel pour aller vers quelque chose de plus profond.
C'est quoi ce rôle dont t'arrives pas à sortir? Comment tu le définis et comment tu te mets dans ce rôle?
Bah juste le rôle de sex friend, quoi. Enfin, on se voit, on couche ensemble, on passe un bon moment, mais ça reste superficiel et il y a pas forcément.
Pourquoi ça reste superficiel?
Pourquoi ça reste superficiel?
Parce que t'es sex friend, tu peux pas donner plus, tu peux pas t'impliquer plus dans la relation. C'est quoi qui t'empêche de d'être moins superficiel dans une relation de sex friend, en fait?
Je pense que déjà, toi tu parles au présent, moi je parlerai plus au passé. Je dirais que je pense que c'est une question de timing avant toute chose, quoi, et de feeling avec la personne. Ça peut se faire comme ça peut ne pas se faire. Et c'est ce que je te dis, il y a certaines relations où je suis tombée dans ce rôle de sex friend et sans plus, alors que moi je voulais plus et que lui voulait pas, mais comme dans n'importe quelle relation ça peut arriver, comme des fois ça a pu être l'inverse, comme des fois ça s'est bien passé, les atomes ont été crochus, ça se dit pas, mais...
Donc si je comprends bien ce que tu es en train de nous dire là, c'est que tu t'es fait sex friendzoner, quoi.
Ouais, je me suis déjà fait sex friendzoner comme j'ai déjà sex friendzoné des gens aussi. Ouais, c'est vrai, j'avais jamais entendu cette expression, mais ça marche bien. Donc.
C'est génial comme expression, mais j'adore. Voilà,
il vient de l'inventer, je crois.
Je valide, mais à 200%, quoi. C'est trop bien, en fait, franchement, d'être sex friendzoné, quoi. C'est que les avantages sont les inconvénients, quoi. Que demande le peuple, en fait.
Non, mais en même temps, elle a dit qu'elle n'était pas particulièrement contente d'être sex friendzoné.
C'était pas forcément un choix, donc dans ce cas-là, c'est ouais.
Sauf quand c'est pas ton choix, bon, ça fait un peu chier comme n'importe quelle friendzone, en fait. Et puis, encore une fois, des fois, ça a été l'inverse, où c'est moi qui ai sex friendzoné, où... Voilà, et en fait, il y a tellement de configurations différentes. Chaque relation a été différente parce que la personne était différente. Et c'est ça qui est beau, en fait. À chaque rencontre, je m'en souviens et ça a toujours été... En fait, je suis fascinée par la découverte de l'autre dans tous ces...
Tu te souviens des 100 rencontres, là?
Bien sûr. Bien sûr.
Quelle mémoire.
Bah, dis donc. Bah,
la base. Tu partages un moment intime avec une personne quand tu choisis cette personne. Parce que c'est ça aussi. Souvent, je faisais des rencontres en soirée, mais j'avais plusieurs choix devant moi. Et c'était moi qui choisissais qui je voulais, avec qui je voulais rentrer à la fin de la soirée. Donc, ça a toujours été des choix que j'ai faits.
Et c'est toujours des rencontres que tu as faites en soirée? Ou tu as eu d'autres types de rencontres? Raconte-nous un peu, il y a eu quoi?
Il y a eu les apps,
ah ouais?
Ouais, il y a eu les apps. Alors les apps, attention, je te parle de Tinder en 2013, tu vois, au tout début. Alors j'ai poncé Tinder. Il y a eu aussi... Et Tinder, d'ailleurs, j'ai eu des relations, des vraies relations. qui ont duré plusieurs mois.
Chambé.
Ah, t'es une pionnière de Tinder, quoi.
Ouais, je suis une pionnière de Tinder.
C'était toi la première utilisatrice.
Quand tu dis vraie relation, tu parles de relation monogame ou
Ouais, relation monogame, relation posée, relation amoureuse, disons-le. Donc il y a eu des apps, bah il y a eu dans la rue, il y a eu dans, il y a eu en soirée, il y a eu, il y a eu même dans les clubs échangistes.
Mais tu vas réveiller Dan et Pascal là.
C'est ouais, ouais, tu peux en dire plus. C'est quoi,
mais
quoi
en fait,
ton
on s'est peut-être déjà vu, Morgane. À chaque fois, je me disais, ta voix me dit quelque chose. Mais en fait, voilà, on se connaît. Oui, oui. Tu rigoles, bien sûr.
En tout cas, ça a l'air très très positif. Au début, quand même, tu parlais de quelque chose d'une image négative d'une femme qui multiplie les aventures sexuelles. Est-ce que pour le coup, pour l'instant, on a l'impression que c'est positif, on rigole et tout. Est-ce que tu as vécu le revers de la médaille ?
Eh ben, le revers de la médaille, je dirais que c'est quand à une période de ma vie, j'étais pas bien en moi, tout court, et du coup, quand les hommes s'approchaient de moi, en fait, je ne savais même plus dire non. Et là, there's a problem. Parce que quand tu ne sais plus dire non, quand tu n'as même plus conscience que tu ne veux pas...
Ah ouais, là, ça va pas.
Là, ça ne va plus.
Mais que, d'où ça vient, cet état ?
Il faut creuser ce que tu nous racontes.
Parce que j'étais juste mal, en fait. Je me sentais seule. Je pense que la solitude, une période de ma vie, ça a été un gros problème, je ne l'acceptais pas du tout. Et du coup, plutôt que d'être seule, je me laissais aller à trouver compagnie auprès d'hommes qui ne me plaisaient pas forcément et avec qui j'aurais pu entretenir juste une relation amicale. Mais
tu couchais quand même avec quoi ?
Mais je couchais quand même avec, ouais.
C'est pourquoi ? C'est parce que tu avais besoin de séduire non-stop pour te sentir femme ?
Tu parlais de confiance tout à l'heure.
Alors, ça m'a apporté énormément de confiance en moi parce que en fait, je pense que la vie est un jeu de séduction avec n'importe qui, même avec les femmes, hein. De femme à femme, c'est un jeu de séduction aussi. Et donc, du coup, de voir que je pouvais plaire à... franchement, je vais pas dire à n'importe qui, mais à toutes les catégories et sociales et religieuses et tout ce que tu veux.
Ah ouais. Okay, d'accord.
Ça m'a donné confiance en moi parce que j'ai appris à être un caméléon aussi. Faut le voir comme ça. Après, je me souviens plus de la première question. C'était quoi ?
Tu parles de ma question à moi ?
Oui.
Bah de l'image. Alors de l'image que ça véhicule. Hein, on va pas se mentir, et tu le disais à demi-mot, une femme qui multiplie les conquêtes sexuelles, ben voilà, peut avoir un a priori très négatif de la part des mecs.
Ouais.
Alors de la part de certains mecs, hein, je pense qu'il faut le préciser.
Ouais, de
quoi.
Certains mecs, ouais.
Mais de la part des femmes aussi, je crois. Hein.
Et de la part de certaines femmes
alors,
aussi. Ouais.
Et commençons par les mecs, c'est ça qui va nous intéresser. Comment t'as pu le vivre ça quand quand t'as rencontré des gars qui ça le faisait un petit peu et qu'ils ont compris que tu multipliais. Comment ils l'ont pris ?
Eh bien, alors déjà, les hommes, ils sont très contents d'avoir une femme qui a de l'expérience au lit.
Ouais.
De rien. Et je pense que du coup, moi, ça me trahit. On sent que, du coup, j'essaie d'être relativement discrète avec ça. Je ne vais pas étaler le fait que j'ai eu plus d'une centaine de partenaires parce que même pour moi, je crois que... Quoique non, en fait, j'ai été en couple pendant 3 ans avec quelqu'un et je crois que j'ai plus de 300 femmes et ça ne l'avait pas... Ça me change pas de pensée.
300
Il était à la cool, quoi. Il était à la cool avec ça.
Ouais.
Mais tu penses pas que c'est aussi un cliché aussi aujourd'hui, dans un sens, de dire que les mecs sont choqués par ça ? Tu penses pas que c'est un cliché, non ?
Peut-être que c'est un a priori que j'ai carrément et que du coup, en fait, peut-être que je m'auto-juge un peu j'anticipe le jugement de l'autre.
Ouais.
Donc du coup, je préfère taire la chose et leur laisser croire que bon, voilà, j'ai un peu d'expérience, mais ils s'imaginent pas à ce point le truc.
Après, ça les regarde pas forcément dans un premier temps. Hein.
Bah, c'est ton jardin secret aussi, de toutes les façons.
J'aimerais bien bondir sur la question de Dan, justement. Est-ce que tu as mis à l'épreuve ces clichés ou ces idées? Est-ce qu'il y a un moment dans tes expériences où vraiment tu t'es dit, ah, en fait, sur la quantité de mecs que j'ai eu, bah, en fait, il y en a une minorité ou une partie infime qui me prend pour une pute, alors qu'il y en a une grande, ou est-ce qu'il y en a une grande partie, tu vois, qui a encore qui ont ces idées reçues encore en tête?
Je pourrais pas te dire, puisque je te dis, en fait, je le dis pas.
Ouais, mais comme tu dis, quand ils voient que t'as de l'expérience et tout, non? Ça passe tout seul?
Mais je te dis, ils peuvent pas s'imaginer que c'est à ce point, en fait. Et ouais. J'espérais que la plupart des femmes, maintenant, savent gérer ce qui se passe dans le lit avec leur partenaire. Donc, je peux pas répondre à cette question. Je l'ai pas.
Et moi, j'ai une question par rapport, tu sais, tu disais que tu avais vraiment rencontré des mecs de tous horizons, des jeunes, des vieux, machin. Tu peux nous raconter un peu, je sais pas, parce que du coup, ça a attisé ma curiosité, c'est-à-dire que tu t'es tapé autant des mecs de 50 piges en couple, ou autant des mecs de 70 ans, enfin, j'en sais rien, mais...
Il voudrait savoir s'il y a des podcasteurs dans le lot, c'est pour ça, en fait. C'est juste,
Voilà, j'essaie toujours de savoir si on s'est déjà rencontrés, en fait, mais je rigole, évidemment. Toi, il n'y avait pas de critères, en fait, dans tes rencontres, quoi. C'était un peu au feeling, c'est ça?
Ouais. C'est que le feeling, c'est que ce qui se passe dans les yeux. En fait, c'est même pas le physique, c'est les yeux. Si les yeux me parlent, let's go, baby. Et du coup...
Magnifique.
En revanche, quand même, au niveau de la tranche d'âge, parce que c'était là ta principale question, en tout cas, c'est l'exemple que t'as donné.
Ouais, ouais.
Non, je crois que le maximum d'écart d'âge que j'ai eu, c'est peut-être 20 ans, quelque chose comme ça. C'est-à-dire
20 ans de moins que ton partenaire masculin?
Ouais, c'est ça.
D'accord.
C'est ça.
Et t'as eu plus jeune aussi ou pas?
J'ai eu plus jeune aussi.
Ouais. De quoi, genre, combien d'années de moins?
J'ai eu... Ça, je suis moins à l'aise avec moi-même. J'ai un peu du mal à le concevoir. Mais on n'a pas été jusqu'au bout, mais 10 ans.
Ok.
Ouais.
C'est bien, en tout cas, t'as pu expérimenter à fond, quoi. Ah bah c'est bon, ouais, moi je rentre dans la tranche
bien. Toi qui es à peine majeur, ouais.
Oui, non, enfin, non, tant qu'il y a peine mineure, il y avait
pas. Ouais. Tu t'en parlerais à ton amoureux, des expériences passées, ta vie d'avant?
Alors, je pense que c'est important de garder quand même un minimum de comme vous le disiez, de jardin secret, parce que en réalité, on ne peut pas s'empêcher de s'imaginer des choses après. Mais peu importe qui, en réalité, je pense qu'on fonctionne tous de la même façon. Quand on est amoureux, il y a quand même une petite part de soi qui va imaginer l'autre avec les autres. Et je pense que c'est plus pour protéger mon partenaire que s'il me pose des questions, j'y répondrai, mais j'y répondrai pas dans le détail et j'y répondrai... si je sens qu'il est prêt à l'entendre aussi et que lui a l'expérience pour le comprendre. C'est-à-dire que si tu fasses à un homme qui a connu deux femmes dans sa vie, je pense pas qu'on puisse, même si on peut le concevoir intellectuellement, je pense pas qu'émotionnellement on puisse être prêt à entendre ça.
Tu penses pas justement qu'il y a des mecs qui sont prêts et qui surtout, en fait, que ça exciterait, quoi, qui se diraient, mais en fait c'est trop cool, quoi.
Peut-être.
Enfin, je te confirme qu'il y a des mecs comme ça.
Et pourquoi tu penses que ça créerait un déséquilibre?
Parce que moi, je fais comme ça.
Comment Pardon, j'ai pas compris. Comment?
Parce que je réfléchis avec mon état d'esprit et je pense que je serais comme ça. En fait, je l'ai été en réalité parce que quand j'avais ma deuxième relation, donc qui est mon deuxième grand amour, lui, il avait, à l'époque, on avait 19 piges, on était gamins, mais il avait eu une dizaine de partenaires avant moi, et moi, c'était juste mon deuxième. Et ça a toujours été un complexe pour moi. Je l'imaginais justement avec les autres, que je connaissais en plus, et ça a toujours créé une espèce de jalousie.
Oui, maintenant, mais t'étais plus jeune.
J'étais plus jeune. Maintenant, la tendance s'est inversée, c'est-à-dire qu'avec l'homme avec qui j'étais... pendant 3 ans aussi, mais lui qui avait connu beaucoup, beaucoup plus de partenaires que moi, en fait, c'était un défi pour moi chaque jour de lui rappeler que j'étais la meilleure.
Et du coup,
Ça avait tendance à toujours entretenir.
Mais attends,
ça galvanisait votre couple, quoi.
Ouais, exactement.
Ouais, mais c'est hyper épuisant pour toi, quoi. Je veux dire, c'est un challenge un peu. Non.
Il faut que lui challenge aussi dans son.
Non, non, mais il faut que ça marche dans les deux sens. Tu peux pas arriver dans une relation et te dire je vais être la meilleure, je vais faire tout pour être la meilleure. Je veux dire, tu vas à la limite vers le burn-out sentimental avec cette démarche-là, non?
Non. Non, c'est pas. Alors déjà, c'est pas meilleur.
Burn-out sexuel.
C'est meilleur sexuellement. Donc
bah oui, mais c'est encore pire. Enfin, je veux dire, c'est la performance et tout, quoi.
Non.
Le sexe, c'est pas une performance, c'est une émotion.
Oh, c'est beau. Mais. C'est vachement romantique.
Beaucoup trop romantique, Pascal.
Ouais,
on te reconnaît pas, là.
Mais je suis un grand romantique, vous le savez bien, voyons. Peut-être pas les auditeurs et auditrices, parce que voilà, mais.
Non, ça, j'ai jamais vécu comme un burn-out. Pour moi, c'était juste. En fait, j'ai eu dans mes relations quand j'étais jeune, par exemple, mon tout premier amour, je suis restée 3 ans avec lui et la dernière année, pendant 1 an, on n'a pas eu de rapport sexuel.
Quoi?
Eh oui!
Un an?
Ouais, pendant 1 an. Parce que je le savais pas encore, je me connaissais pas, mais c'est juste que je ne l'aimais plus et que mon corps, du coup, n'avait plus envie de lui. Bon, maintenant, je sais que je fonctionne comme ça, ok, dans les relations longues. Mais du coup, là, c'était pas du tout un burn-out, c'était vraiment, ça entretenait la flamme. Je me rappelais des autres femmes, et du coup, il fallait que je l'oublie, enfin, que je fasse oublier, tout simplement.
Est-ce que tu deviens difficile maintenant en matière de sexe?
Ouais.
Avec tes partenaires? Ouais. Tu peux nous raconter ce que ça serait de devenir
quoi,
difficile?
Ouais.
Eh ben, c'est-à-dire que. Alors, disons que j'ose espérer que j'ai la bienveillance et que de toute façon, chaque rapport, on peut toujours trouver des instants de plaisir. Mais en revanche, je sais très très bien aussi comment je fonctionne et ce que j'aime. Et peut-être même que, à force. De multiplier les expériences, j'ai testé des choses plus
originales.
Originales. et du coup, je suis plus originale que ce que le commun des mortels trouve dans le lit généralement, et donc du coup c'est en ça que je suis difficile maintenant, quoi. C'est compliqué.
Mais tu te compares beaucoup, en fait. Il y a vachement ce côté comparaison et performance, quoi.
Ouais. En fait, peut-être. Non, enfin,
c'est pas une critique, hein, c'est un constat, hein. Moi,
non,
ça me dérange pas, hein. Je veux dire, c'est
alors comparaison envers qui? Parce que
je sais pas, puisque tu dis que tu veux être la meilleure, tu dis que tu veux être différente du commun des mortels. Enfin, tu vois, il y a un côté.
C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que je voulais être la meilleure avec mon partenaire amoureux. Et
d'accord.
Ça, j'ose espérer que c'est quelque chose de normal en réalité, de pas vouloir être un mauvais coup avec celui que tu aimes. Et en revanche, non, il y a. Je veux pas être la meilleure. Attends, tu disais quoi? C'est quoi le deuxième truc?
Sur le fait que tu te compares.
Non,
mais après, c'était juste un ressenti dans l'instant. C'est ni une critique ni un jugement.
Non,
c'était juste.
Je ne me souviens plus de ce que tu as. T'as soulevé une autre idée après qui était intéressante aussi, mais je ne me souviens plus. Ouais.
Je suis désolé,
j'ai une dernière question. Alors, peut-être une dernière question.
Vas-y, Conny.
Est-ce que le fait de multiplier les partenaires comme ça et de devenir un peu plus sélective, éventuellement un peu plus exigeante, ça pourrait pas te fermer des portes pour des relations qui seraient pas des relations que sexuelles et dont tu pourrais avoir envie, des relations amoureuses, par exemple?
C'est pas que ça me ferme des portes, c'est que je fermerai ces portes-là. C'est-à-dire que pour moi, la vie sexuelle dans un couple, c'est primordial. Et que si je ne trouve pas mon compte, ça ne pourra pas tenir dans le temps. Tout simplement. Parce qu'en fait, ce qui différencie une amitié d'un amour, c'est le sexe au final. Ouais.
C'était pas tout à fait ça le sens de ma question. C'était plutôt un partenaire que tu rencontres qui te va bien, avec qui tu t'entends bien, mais qui aurait pas le niveau espéré ou attendu. Sexuellement, est-ce que tu pourrais passer à côté de lui?
C'est ce que je te dis, oui. Oui, parce que pour moi, le sexe est trop, c'est très important dans une relation.
Après, ouais. Tu pourrais aussi le former.
Ouais, voilà, je parle du début. Voilà. Mais il a raison. Il a raison.
Jedi, quoi. En mode Jedi,
fait ça
et tout de ouf.
T'as fait quoi, une formation en mode self-entrepreneur, là?
En fait, je sais pas, est-ce qu'on peut former quelqu'un
Les gens peuvent évoluer quand même un petit peu, ils peuvent apprendre.
Mais il faut quand même une base, il faut quand même la flamme de ce que j'aime. Et donc du coup, si elle a ce que j'aime, ça se fera tout seul, il y a même pas, c'est au fur et à mesure, il n'y aura même pas besoin de former quelqu'un. En revanche, si de base, parlons clairement. J'aime être dominée. Si la personne en face de moi est une personne qui, elle, aime être dominée, je vais pas pouvoir lui apprendre à être dominante parce que c'est pas son truc. Et on pourra s'entendre aussi bien qu'on veut, on pourra être amoureux et tout. Ça va être mignon pendant quelques semaines, mais au bout d'un moment, je vais pas être satisfaite. Dans ce cas-là.
Ouais, on comprend qu'en fait, grâce à la multiplicité de ces relations, t'as acquis aussi une expérience qui te permet de jauger directement les partenaires que tu peux avoir en face et voir les connexions. Les connexions que tu peux avoir et pour des relations un peu plus solides. Bon, c'est.
Ouais. Merci. Morgane, et on se retrouve au studio.
On se retrouve à bientôt.
À bientôt, merci Morgane.
Allez, on passe à la suite.
À bientôt.
Les Gentilshommes, le seul podcast sur les relations amoureuses à votre écoute, le lundi soir en direct sur Instagram et sur restless.com. Tu en as rêvé ? Connie, Dan et Pascal l'ont fait.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.